Entretien avec les trois auteurs de L'Homme-Bus, une histoire des controverses psychiatriques en Suisse romande, paru aux éditions Georg. Un podcast de la librairie La Dispersion et des archives contestataires.
Mais qu'est-ce que c'est que les lois? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que le travail? Qu'est-ce que c'est que toutes ces obligations qu'il y a dans la vie?
Voix de Martial Richaud, dans le film de Michel Etter, Martial dit L'Homme-Bus, 1983.
Est-ce que c'est pas une sorte de ligne aérienne qu'on doit suivre et que si on sort de cette ligne, si on va trop à gauche ou trop à droite, ou si on se trompe d'aiguille, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprendraient pas, l'aiguille ce serait le mauvais chemin, on est mal vu de la société. Si on est mal vu de la société, des fois on est arrêté, des fois on est interné. Alors, est-ce qu'on n'essaye pas de remettre les perches aux gens?
À Lausanne, au début des années 1980, un jeune homme passionné de trolleybus fabrique de ses propres mains, avec des matériaux de récupération, une série de modèles réduits. Endossant un authentique costume de conducteur, il promène ses véhicules sur les trottoirs de la ville, selon sa route à lui. En janvier 1986, le jeune Lausannois, de son vrai nom Martial Richaud, est escorté par la police pour être interné de force à l'hôpital psychiatrique de Seury. L'Homme-Bus disparaît des rues de la capitale vaudoise.
À la fin des années 70,
Christina Ferreira, professeure associée à la Haute École de Santé Vaud.
Il s'agissait de mettre un terme à des enterrements administratifs qui se pratiquaient depuis des décennies et qui étaient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc la Suisse devait répondre à l'exigence internationale et créer une mesure de protection qui respectait un certain nombre de restrictions prévues dans le droit international. Et donc la privation de liberté à des fins d'assistance est donc une mesure de tutelle qui entend porter une assistance à des personnes qu'on disait alors malades mentales, mais aussi des alcooliques, des toxicomanes, ou des personnes dites en grave état d'abandon, c'est-à-dire dont les conditions de vie étaient jugées contraires à la dignité humaine. Donc ça, c'était des populations concernées par cette mesure qui prétend à la fois apporter une assistance mais qui doit passer par la contrainte, par une atteinte forte aux libertés, concrètement, un placement dans une institution, et sans que la personne puisse exercer son autodétermination. D'emblée, on voit bien que c'est une mesure qui est potentiellement conflictuelle. On voit bien un conflit d'intérêts entre la liberté individuelle et la sécurité collective. Cette mesure, elle était conflictuelle pour une autre raison encore, c'est qui était autorisé de décider une telle privation de liberté. Alors, est-ce que c'était les autorités tutélaires? Est-ce que c'était des médecins psychiatres? Tout ça a donné lieu à toute une série de conflits que nous retraçons, notamment dans la première partie de cet ouvrage, et qui, à notre sens, méritaient d'être connus. C'est-à-dire que ce n'était pas juste une loi qui était posée, comme ça, votée au Parlement, mais elle était entourée de débats importants. Et notre parti pris à nous, notre intention dès le départ et jusqu'à aujourd'hui encore, c'était de rendre compte de la complexité de l'application de cette mesure à travers des situations concrètes. C'est de quitter le ciel des idées, les traités philosophiques, la doctrine juridique, pour vraiment être dans son application et dans ce qu'elle suscite, pour bien réaliser à quel point elle suscite des dilemmes très importants pour ceux qui sont chargés de l'appliquer.
Depuis quelques années, Marcialovitch Krichovski, 23 ans, circulait dans les rues de Moscou en poussant une caisse à roulettes.
Télévision suisse romande, temps présent, l'affaire Martial, 3 avril 1986.
Il se prenait pour un autobus. C'était sa façon inoffensive de ne pas marcher dans les ornières d'une société plutôt gelée. Mais quelques citoyens, indignés par ce déviationnisme, l'ont dénoncé aux miliciens, aux juges et autres autorités moscovites. Aussi, Marcialovitch Krichovski a-t-il été enlevé de force et enfermé pour son bien dans un hôpital psychiatrique. Toute ressemblance ou similitude avec Martial Richaud, un juge de paix, une tutrice, un tuteur général, des médecins, la ville de Lausanne et l'hôpital de Seury est une coïncidence affligeante.
En janvier 1986, Martial Richaud, donc jeune Lausannois, il avait 23 ans alors, il est escorté par la police sous décision initiale de juge de paix de Lausanne, sous le régime légal de la privation de liberté à des fins d'assistance. Mais ce qui est important là, de souligner d'emblée, c'est que cette mesure, ça faisait juste 5 ans qu'elle existait, elle était à peine connue du public et des personnes qui ont suivi en fait l'événement, Par contre, ce qui était nettement encore plus présent à l'esprit, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou, et puis l'idée d'un internement à l'hôpital psychiatrique comme une mesure presque punitive, puisque voilà, dans l'imaginaire, il était encore question d'un asile où on enferme les fous, et la question était pourquoi l'Ombus avait été interné. Et donc pourquoi autant de bruit et de tapage médiatique alors que des centaines de gens étaient admis à Syrie à ce moment-là. Et donc notre début de notre intrigue, c'est justement comment on est venu à fabriquer une affaire autour de l'Ombus à partir de sa privation de liberté à des fins d'assistance.
À la fin janvier, le conservateur du musée de l'art brut de Lausanne révèle que Martial est interné à l'hôpital psychiatrique de Syrie depuis une quinzaine de jours.
Télévision suisse romande, temps présent, l'affaire Martial, 3 avril 1986.
La nouvelle fait l'effet d'une bombe.
Si le principe c'est l'uniformité et tous ceux qui dérogent, il faut les enfermer parce qu'ils risquent d'être victimes des autres, on arrive tout doucement vers cette espèce de...
Michel Thévaux, directeur du musée de l'art brut.
De goulag ou de soft goulag qui est en train de devenir la Suisse.
J'essayais de trouver mon bonheur en jouant au conducteur trolleybus, c'est tout. Et puis les gens n'ont pas supporté ça parce qu'il y a une chanson qui dit si bien, c'est pas très poli, mais une chanson dit « Mais ça emmerde les gens quand on ne vit pas comme eux ».
De fait, il n'y aurait pas eu d'affaire Martial sans cette notoriété.
Ludovic Moguet, historien.
Cette notoriété qui se construit, donc vous l'avez dit, essentiellement en 1983. Alors d'où provient cette notoriété? Il y a deux éléments. Il y a d'une part, mais ça c'est à une plus petite échelle, la collection d'art brut via son directeur Michel Thévaux, qui s'est rapidement intéressé à la production de Martial, notamment en lui achetant quelques-uns de ses trolleys fabriqués de ses mains sur des chariots diables. Et puis la collection d'art brut s'est aussi intéressée à ses dessins. Mais c'est surtout le film de Michel Etter qui contribue à la notoriété du personnage. Pour resituer rapidement, Michel Etter, en 83, à peu près le même âge que Martial, c'est une petite vingtaine d'années, c'est alors son premier film de réalisateur. Il tourne un court-métrage sur cette figure de l'Ombus qui croise régulièrement en ville de Lausanne et puis qui l'interpelle. Il tourne un court-métrage d'une... ça fait 26 minutes... dans lequel on suit Martial dans ses déambulations urbaines dans les rues de Lausanne, et puis tout ce jeu qui se met en place avec les Kidam, avec les conducteurs des transports publics.
Donc, monsieur, dame, présentez les billets, s'il vous plaît.
Oui, merci. Oui, merci. Merci.
Voix de Martial Richaud dans le film de Michel Etter, Martial dit l'Ombus, 1983.
Oui, d'accord. Oui. Merci, monsieur.
Et donc ce film, en fait, a rapidement connu une notoriété. Donc tout d'abord, c'est l'accueil très positif que lui réservent les milieux cinéphiles romans. Par exemple, Freddy Buach met à l'honneur le film d'Ether à la Cinémathèque suisse. Et puis il est projeté dans d'autres milieux cinéphiles, par exemple à Genève. Et puis, plusieurs institutions culturelles de renom s'y intéressent. Donc Thévaux, dont il était question tout à l'heure, découvre ce film, même il a incité Etter à tourner ce film. Thévaux le fait projeter à la collection de l'art brut. Et puis au même moment, le court-métrage intègre la programmation du Festival du cinéma du réel au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à Paris. Et c'est là, à Beaubourg, que le célèbre ethnologue et réalisateur français Jean Rouch le repère et écrit à Etter pour lui dire tout le bien qu'il pense de ce film. Donc dans la presse, 3 ans avant l'affaire, les journalistes ont déjà... Donc là, certains, les journalistes lausannois, connaissaient Martial, et puis ceux qu'ils ne connaissaient pas se plaisent à relayer l'engouement qui entoure le film, notamment lorsqu'il est primé au Festival du film documentaire de Nyon. Et puis, il faut dire qu'il y a même un côté grand public qui entoure la réception du film, puisque... D'une réception très positive dans les milieux cinéphiles, le film va rencontrer un public plus large. Notamment parce que la première chaîne publique française, Antenne 2, le diffuse en 84, en seconde partie soirée, après un film de Tavernier, Le juge et l'assassin. Et puis à ce moment-là, donc la presse romande, quelque part, s'offusque de ce soit les Français qui soient les premiers à diffuser le film sur une chaîne de grande écoute. Et puis, ils déplorent le fait que ce film n'a toujours pas été diffusé à la télévision suisse romande. Donc, est-ce que la notoriété de Martial via ce film joue un rôle dans la publicité qui entoure l'hospitalisation, son hospitalisation forcée ? Oui, assurément. Et puis, c'est précisément ce que nous avons voulu montrer dans la deuxième partie du livre, en restituant, presque au jour le jour, la construction de cette affaire médiatique. Parce que, pour cette question, le ressort de cette notoriété, il est évident, puisqu'à la même époque, plus d'un millier d'individus sont hospitalisés chaque année à Seury, des dizaines d'entre eux sous le régime de la privation de liberté à des fins d'assistance, sans que cela suscite le moindre entrefilet dans la presse. Et puis peut-être un dernier mot par rapport au film d'Ether. Il fait aujourd'hui grand effet, il est disponible sur YouTube, beaucoup de gens continuent à le regarder. Et puis j'ai envie de dire, c'est même un très bon préambule à la lecture du livre que nous avons rédigé.
Ouais, 700. Ouais. Moi j'ai toujours considéré l'amour du trolleybus que j'ai, c'est comme un type qui aime une fille, un jeune homme qui aime une fille. Même si ses parents veulent qu'il marie une autre, il ne voudra pas, il en a connu une. Ce sera peut-être l'amour de sa vie et ne voudra jamais changer.
C'est que Martial n'est pas un clown. Martial, c'est avant tout un artisan. C'est quelqu'un qui a des véritables compétences techniques. Il y a une forme de virtuosité mécanique quand on voit la manière avec laquelle il construit ses chariots sur le modèle des trolleybus. Il connaît mais parfaitement toutes les lignes du réseau lausannois. Il connaît de nombreux conducteurs des transports publics. Il a lui-même, d'une manière ou d'une autre, pu travailler un petit peu dans les locaux des TL. Et donc, il s'est familiarisé avec énormément d'aspects des bus, donc du trolleybus en tant que tel, mais du réseau d'une manière plus générale. Et puis, en fait, c'est aussi pour ça, c'est pas uniquement pour cette figure d'altérité dans les rues que les gens s'arrêtaient, mais c'est aussi parce qu'il y avait une maîtrise technique dans cette manière de restituer extrêmement finement le fonctionnement d'un trolley à l'échelle d'un chariot, d'un chariot diable, mais tout le fonctionnement du bus. Et puis il le sert, ce fonctionnement du bus, avec une capacité d'imitation hors norme. Il refait tous les bruits. Et d'ailleurs, on voit ça, c'est assez drôle, parce que encore maintenant, les gens qui peuvent témoigner, qui se rappellent de Martial, qui témoignent sur les réseaux sociaux, ils se rappellent encore la manière qu'il avait d'imiter le sifflement des portes, le bruit des freins. Et lui, le bus, il le connaît parfaitement. D'ailleurs, quand il l'explique, il connaît tous les termes consacrés, tout le lexique spécifique au trolleybus. Donc le livre entend aussi revenir précisément sur cette maîtrise, sur la maîtrise technique d'un passionné.
Je fais tous les bruits du trolleybus. Donc sur un trolleybus, on m'a expliqué, un monsieur du dépôt m'a expliqué que quand on arrivait à environ 3 kg d'air dans le compresseur, il doit se recharger automatiquement jusqu'à ce qu'on arrive à 8 kg d'air. À ce moment-là, au moment où il se recharge, ça fait comme ça. Voilà. Les portes, c'est comme ça, hein, la porte avant, attendez. Le frein à air, c'est quand on presse et qu'on relâche, ça fait comme ça. Ensuite, si vous ouvrez toutes les portes à la fois, ça fait comme ça. Un peu plus longtemps parce qu'il y a les trois portes qui s'ouvrent. Alors on peut fermer la porte arrière. Je fais un peu moins fort parce que comme moi je suis le conducteur, je suis plus loin de la porte arrière que de la porte du milieu ou de celle de devant. Ensuite, celle du milieu, je fais un peu plus fort. Comme ça, voilà. J'ai le pouvoir d'imaginer la carrosserie, les sièges, les clients et tout le fourbi. Mais je crois que beaucoup de gens ne me comprendront pas parce qu'il faut une imagination qui dépasse beaucoup de gens, et notamment certains psychiatres.
Il s'agissait vraiment de prendre tous les acteurs et toutes les voix au sérieux.
Sandrine Molini, historienne.
En étant attentif à ne pas gommer les rapports hiérarchiques qu'entretiennent ces acteurs, ces différents acteurs. À titre d'exemple, il faut mentionner que le risque d'une prise de parole n'est pas le même pour tous. C'est-à-dire que quand un jeune médecin assistant ou un infirmier exprime ses opinions sur la psychiatrie et généralement des critiques, souvent contre sa hiérarchie, il s'expose vraiment à des sanctions qui peuvent être assez sévères. Il y a aussi des enjeux là autour.
Oui, comme ça a été dit au départ, il y a un lien entre la micro-histoire, la petite histoire de l'homme-bus, l'affaire locale, et puis une histoire plus large, qui est celle des controverses menées notamment par les grandes figures d'antipsychiatrie. Alors, ces choses-là vont s'emboîter dans la discussion de son internement. Et nous, et c'est pour ça que nous avons construit, la controverse est vraiment l'épine dorsale de l'ouvrage à travers laquelle chaque fois les chapitres, ils ouvrent sur des scènes d'affrontement, d'affrontement entre des acteurs qui sont en profond désaccord entre le sens même, dans l'internement en psychiatrie, dans un régime démocratique, etc. Ces scènes de désaccord, elles sont multiples, hein, ça va d'un congrès, à Mendrisio, au Tessin, qui rassemble des juristes, des associations militantes, des patients, des médecins psychiatres. Ça va d'un échange épistolaire entre Michel Thévaux, donc directeur de la collection d'art brut, et le directeur de série de l'époque, autour de l'ombus, mais ça déborde à chaque fois. Et ça va, bien sûr, des manifestations dans la rue, les protestations, les tracts, etc. Donc ça, pour nous, c'était important, c'est-à-dire à quel point cette notion de controverse, elle permettait de voir cet affrontement-là, mais aussi le souci pour les personnes qui étaient en controverse de prendre à partie le public. Il fallait, pour parler d'une controverse, il faut un public sous forme que ce soit un auditeur de radio, le passant dans la rue qui va à une manifestation, le lecteur de la presse qui va réagir ou pas par une lettre. Il faut susciter quelque chose dans le public pour que les personnes réfléchissent, qu'elles commencent à avoir des doutes, qu'elles commencent à prendre position. C'est ça le sens de la controverse. Est-ce que est un enjeu immense encore aujourd'hui pour ceux qui lancent des controverses, c'est de pouvoir atteindre en fait le public et déborder de leur simple dispute d'idées.
Qui frappe d'emblée, je trouve, quand on se penche sur l'affaire de l'Ombus, c'est précisément une profusion d'acteurs qui se prononcent sur cette hospitalisation, qui s'impliquent dans la controverse. On a bien sûr des médecins, mais aussi des acteurs culturels, des chauffeurs de transport lausannois, des syndicats, des étudiants. Donc on a vraiment une large prise de parole. Ce qui apparaît, c'est que les personnes qui, à ce moment-là, s'opposent à l'hospitalisation de Martial Richaud, vont puiser dans un répertoire d'arguments qui étaient mobilisés en fait depuis un certain temps déjà par des collectifs, par exemple les juristes et les médecins progressistes ou la DUPSI, qui est fondée à Genève en 1979, notamment par des usagers de la psychiatrie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces collectifs qui s'activent en fait principalement dans les années 70, début des années 80, luttent vraiment pour donner ou redonner une voix aux patients, affirmer leur libre arbitre et désenclaver la psychiatrie. Donc il y a un aphorisme qu'ils aiment bien reprendre à leur compte et qui est assez connu, puisqu'ils présentent la psychiatrie comme une question qui est bien trop sérieuse pour être laissée aux seules mains des psychiatres. Et donc ils sont actifs à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des structures médicales, et ils contestent vraiment l'idée que les psychiatres soient les seuls à qui puissent avoir un discours autorisé sur les questions de santé mentale. Donc la question ici est vraiment qui est légitime pour s'exprimer aussi sur ces questions. Donc tous ces acteurs visent aussi à dénoncer des institutions psychiatriques qu'ils perçoivent comme très hiérarchiques, très autoritaires, à la fois dans leur rapport aux patients, mais aussi au sein même du personnel soignant. Et donc un des enjeux à ce moment-là, c'est d'aller saper cette structure pyramidale avec des entreprises comme la tentative du docteur Bartol Behrens de Haan pour instaurer une communauté thérapeutique dans son pavillon à Bel Air dans les années 70, alors qu'il est médecin assistant.
Vous êtes psychiatre, Bartol Behrens de Haan, et vous venez de publier un livre intitulé « Dictionnaire critique de la psychiatrie », un livre que vous avez dédié, je cite, « à toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, ont peur des psychiatres ». Mais un psychiatre qui a peur des psychiatres, n'est-ce pas pour le moins étonnant ?
Télévision suisse romande, en question avec Bartol Behrens de Haan.
Sans doute.
Sans doute, c'est étonnant. Mais je crois que c'est au cours de ma formation en psychiatrie et au cours de mon passage dans l'hôpital psychiatrique que j'ai mesuré à quel point les psychiatres pouvaient être des gens dont il fallait, qui étaient dangereux, dont il fallait se méfier.
Il faut avoir peur des psychiatres et de la psychiatrie, sincèrement ?
Il faut considérer lucidement la psychiatrie à la fin de ce XXe siècle et admettre et reconnaître qu'elle est peut-être aussi malade que les fous dont elle prétend s'occuper.
On a des infirmiers, des infirmières, notamment Claude Cantini à Lausanne, qui réclament vraiment d'avoir voix au chapitre dans l'organisation du travail hospitalier, dans la gestion hospitalière, dans les traitements, etc. Et ça, c'est un aspect un peu moins connu qu'on tenait à exposer, puisque, sans grande surprise, l'historiographie réserve une grande place aux médecins, à ces fameux patrons de la psychiatrie. Mais les autres groupes du personnel médical sont un peu laissés de côté. Or, ils s'investissent aussi vraiment à façonner la discipline, parfois contre leur hiérarchie, justement. Mais pour en revenir à ces activistes, pour eux, la psychiatrie, en fait, est éminemment politique. Et elle représente un instrument de normalisation à tout prix, un outil de répression contre des citoyens réfractaires. Ils aiment bien appeler flicatres les spécialistes de la santé mentale. Donc il y a tout un vocabulaire aussi qui illustre bien leur position à ce sujet. Et leur action, elle est cristallisée autour d'affaires, en particulier à Genève, d'affaires d'internement, de traitements forcés, qui défraient la chronique dans les années 70 et qui aboutissent à une crise importante des institutions psychiatriques genevoises, notamment après le décès d'un patient en 80 lors d'une cure de sommeil forcé.
8 ans de combat pour rien, pourrait-on dire, si la mort d'Alain n'avait pas tout de même été un peu à l'origine de la réforme des institutions psychiatriques à Genève, si elle n'avait pas contribué quelque peu à lever le voile sur ce qui se passe à Bel Air, où le professeur Tissot, qui était alors responsable de l'établissement psychiatrique et avait ordonné justement le traitement infligé à Alain, a dû céder sa place.
Télévision Suisse Romande, 17 février 1989, journal du soir. Reportage sur la conférence de presse à l'occasion du non-lieu prononcé dans l'affaire du décès d'Alain à Bel Air.
C'était une mince consolation, évidemment, pour Sylvie, la compagne d'Alain, ce qui, ce matin, était tout de même un peu amer, et on la comprend.
La justice a très souvent servi à protéger le fort et à écraser le faible. En l'occurrence, le faible était déjà mort, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce qui fait qu'effectivement, c'était dans la logique des choses d'aboutir à ça, c'est-à-dire à la fin. Ça ne m'étonne pas. Par contre, ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est d'une part la collusion des pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir juridique, pouvoir médical, qui fait assez peur. Et c'est surtout le comportement du milieu médical qui est absolument terrible. Je renvoie aux lettres d'amour passionnées que tous les médecins romands ont écrit à Tissot juste après la mort d'Alain pour le soutenir alors qu'ils ne savaient rien des conclusions et ils ne savaient absolument pas ce qui s'était passé.
Et à ce moment-là, ces associations de défense des patients dénoncent en particulier autour de ce décès, le silence qui entoure les pratiques psychiatriques. Et donc, ils cherchent vraiment à exposer ce qui se produit dans ce qu'ils appellent parfois la forteresse hospitalière. Et c'est un élément qui va être important dans l'affaire de l'Ombus, où justement la dénonciation d'un culte du secret est un ressort important. Pour résumer, on voit vraiment que le cas de l'Ombus s'inscrit dans l'héritage de ces mouvements, et s'inscrit aussi dans une culture de la contestation qu'on a eu la chance d'étudier, notamment grâce aux archives contestataires à Genève, donc on les remercie ici. Et cette culture, elle se caractérise par tout un répertoire d'instruments. Christina l'a dit avant, mais on a la distribution de tracts, de brochures, souvent de fabrication artisanale, l'organisation de conférences, de débats publics, de manifestations. On va mobiliser la presse, aussi la presse militante. Plus rarement, on assiste à des actions chocs. Donc, par exemple, quelqu'un est allé voler et détruire un appareil à électrochoc ou va incendier la voiture du directeur de Bel Air. Le tout accompagné d'une imagerie vraiment percutante. Beaucoup de ces ingrédients, pas forcément tous, mais beaucoup de ces ingrédients se retrouvent dans l'affaire de l'Ombus. Mais en même temps, il importe aussi de signaler ici que cette affaire intervient à un moment où ce militantisme très intense amorce un déclin, ou en tout cas sous cette forme. Et par la suite, les associations, les nouvelles associations de défense des droits des patients vont davantage chercher à fonctionner en composant, en dialoguant avec les institutions psychiatriques. Dans ce mouvement-là aussi, leur lutte, leur critique se dépolitise, en tout cas dans une mesure importante.
La fin de cette période dont traite le livre, les années 80, semble être marquée, comme dans d'autres domaines à la même époque, par un retour à l'ordre, qui se manifeste notamment dans une espèce de compulsion à créer des diagnostics illustrés par le fameux manuel de diagnostic DSM. Si on déborde un peu du cadre de l'ouvrage, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la montée en force du management dans l'hôpital qui intervient à la fin des années 80? Et quelle forme prennent les controverses dans l'hôpital des managers? Peuvent-elles encore y exister?
Bon, là, nous débordons largement du cadre chronologique, on va dire, d'ouvrage, même si nous mentionnons de manière très brève ces tendances-là. Ce passage d'une psychiatrie qui était telle qu'elle a été décrite tout à l'heure, qui fonctionnait avec une structure pyramidale, une direction par des patrons de la psychiatrie qui dirigeaient ces institutions parfois pendant 25-30 ans, qui résidaient avec leur famille dans l'enceinte même de l'hôpital, et qui avaient quasiment le monopole décisionnel, même s'il y avait des commissions desquelles ils s'entouraient d'autres médecins directeurs. Mais il y avait vraiment un fonctionnement là qui a été critiqué, et progressivement, aussi, que c'est aussi un fruit de la contestation qui a été évoqué tout à l'heure, il y a eu progressivement un changement dans la façon même de penser les institutions, et l'hôpital est une entreprise publique comme une autre, donc elle a été prise dans cette dynamique managériale où il fallait atteindre plus d'efficacité et de concevoir une gestion d'hôpital qui est bicéphale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une direction médicale qui s'occupe des soins, mais on met à la tête de l'administration des hôpitaux des gestionnaires qui viennent d'autres disciplines et qui ont d'autres préoccupations, notamment les coûts, l'efficacité des pratiques, les flux d'entrée et de sortie. Bref, c'est toute une autre logique qui va petit à petit s'infiltrer dans l'hôpital psychiatrique et de façon relativement inédite et avec des conséquences. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait du travail d'immersion, de type ethnographique, dans un hôpital psychiatrique en Suisse romande, on réalise assez vite que les pratiques au quotidien sont structurées de manière très, très massive par l'informatique, par remplir des dossiers, entrer toutes les données relatives aux patients dans ce qu'on appelle les dossiers informatisés du patient. Donc beaucoup de temps passé dans cet aspect administratif. Donc il y a une transformation, un bouleversement quand même important de la pratique des soignants qui, eux, revendiquaient donc depuis belle lurette une autonomie de leur action face aux médecins, une reconnaissance. Et en fait, paradoxalement, ces outils-là, ce management-là, va reconnaître cette pratique, mais va imposer en même temps les outils de gestion qui vont un peu pervertir leur action soignante. Et nous avons là alors des éléments potentiels pour la relance d'une critique, mais nous n'avons pas pour autant une controverse. Alors, pour voir plus clair, ces dernières années, il y a des rayons de bibliothèques, de librairies qui sont remplis de manifestes, de nouveaux manifestes, de nouvelles doléances, des récits qui proviennent notamment de psychiatres, et notamment en France où la situation est particulièrement préoccupante en termes justement de l'imposition de normes managériales. Donc il y a toute une série de publications qui essayent de dire « attention, la psychiatrie est en train d'être accaparée, dominée par cette logique à la fois économique, mais aussi une logique sécuritaire. Et donc ces publications existent, c'est des doléances, c'est des critiques argumentées, et pourtant, on n'a pas de controverses publiques telles qu'elles ont existé dans les décennies précédentes. »
aujourd'hui, il y a tout un mouvement mémoriel autour des internements administratifs, une question qu'on aborde également. Et à ce titre, les chercheurs qui travaillent sur ces questions sont vraiment invités, notamment par le politique, à s'intéresser au regard des personnes qui ont vécu les mesures de contrainte. En l'occurrence, on parlait plutôt d'internement administratif, mais c'est le cas aussi pour les internements psychiatriques, les hospitalisations sous contrainte. Donc les chercheurs sont invités à dialoguer avec ces personnes et à faire de la recherche en intégrant leur point de vue aussi. Donc pas seulement de faire une sorte par le haut, mais vraiment d'aller voir, d'aller prendre leur perspective en considération. Ça, c'était aussi un point qui était important pour nous.
Dernière chose, en termes de la réception de ces livres, tel qu'on l'espère, et peut-être au risque de passer pour des militants, c'est de pouvoir en fait réactualiser un des slogans importants qui apparaît dans le livre, qui était un slogan de l'époque, c'est « La psychiatrie est une affaire de tous ». Et de se dire qu'aujourd'hui, on pourrait tout à fait réactualiser une autre chose, c'était le dialogue qui était constant à ce moment-là entre les sciences humaines, les sciences sociales, des praticiens, des assistants sociaux, des patients, des associations en train de se construire. Mais il y avait un croisement de réel, de disciplines, de professions, en se disant la psychiatrie n'est pas que l'hôpital, ce n'est pas que les médicaments, elle engage des questions telles que la liberté, la créativité, la place dans la cité, quand on relève de la folie, quand on n'est plus, ou peut-être qu'on n'a jamais été dans une économie productive, dans une société salariale, donc à ce moment-là, cette mouvance qui réfléchissait au statut du fou dans la cité, en fait, englobait bien d'autres questions comme l'hébergement, le travail, et surtout avait cette idée de pourquoi pas discuter de ça justement dans la cité, puisque, et ça n'a pas changé loin de là, chacun de nous a de près ou de loin un lien avec des situations, des problèmes, des personnes dont s'occupe. Les professions de la psychiatrie. Il nous paraît, à travers ce livre, qu'on peut tout à fait créer ces moments de discussion où le travail de recherche, le travail civique, le travail professionnel, les personnes elles-mêmes entrent en dialogue pour voir alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que, en documentant ça dans le livre, notamment des expériences, ce qu'on appelait à l'époque la socialisation de la folie, c'est-à-dire d'aller vers les quartiers, les maisons de quartier notamment, les syndicats, la petite PME, tous ceux qui avaient peut-être quelque chose à dire et aussi une solution, des solutions tangibles à trouver pour des personnes, notamment quand elles sortaient des hôpitaux, puisqu'il fallait libérer les malades, mais encore fallait-il qu'ils atterrissent quelque part. Et cette question-là reste passablement d'actualité. Donc on espère, c'est-à-dire il y a des choses qui appartenaient à des contextes, bien sûr, Parme la Rouge n'est pas Genève, mais il y a des enjeux aujourd'hui, notamment avec le contexte du Covid, qui sont assez, on pense, assez favorables pour revenir à une dimension contextuelle du mal-être. Il y a une politisation, si possible, de ce mal-être, en reliant de ce qui se passe de manière massive et des événements historiques qui ont un impact réel sur la psyché, bien sûr, sur le lien social et sur l'identité des gens, sur comment ils se lient aux autres. Donc ça nous paraît une question fondamentale qui peut être tout à fait réactualisée.
J'ai fait une compagnie imaginaire. Quand je conduis ma charrette, je ne fais jamais le même conducteur. Et j'arrive à imiter tous les gens que j'aime au volant des trolleys. Donc c'est une compagnie qui m'aide à supporter le monde.
Entretien avec les trois auteurs de L'Homme-Bus, une histoire des controverses psychiatriques en Suisse romande, paru aux éditions Georg. Un podcast de la librairie La Dispersion et des archives contestataires.